Alors nous lirons un texte donc de la Bible au chapitre 66 du livre du prophète Ésaïe, les versets 18 à 23. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles. J'enverrai certains de leurs rescapés vers les nations, à Tarsis, à Poul et à Loud. Les tireurs à l'arc à Toubal et en Grèce, aux îles lointaines qui n'ont jamais entendu parler de moi et qui n'ont jamais vu ma gloire. Et ils diront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères d'entre toutes les nations en offrande au Seigneur sur des chevaux, sur des chars, des chariots couverts sur des mulets et des dromadaires à ma montagne sacrée. À Jérusalem, dit le Seigneur, comme les Israélites apportent leur offrande dans un récipient pur à la maison du Seigneur. Et je prendrai aussi parmi eux des prêtres, des lévites, dit le Seigneur. En effet, comme le ciel nouveau et la terre nouvelle que je fais subsisteront devant moi, déclaration du Seigneur, ainsi subsisteront votre descendance et votre nom. De nouvelle lune en nouvelle lune, de sabbat en sabbat, tous viendront se prosterner devant moi, dit le Seigneur.
Et au chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres, les versets 1 à 13. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent, qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, des juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés, stupéfaits, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye cyrénaïque, pourtant j'avais répété, hein, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. Tous étaient stupéfaits et perplexes. Ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire ? Mais d'autres se moquaient en disant, ils sont pleins de vin doux.
Il y a 2 semaines, en parlant de la fête de l'Ascension, vous vous souvenez, nous avons scruté le ciel avec les disciples. Et comme les disciples, nous avons pris conscience que nous devions désormais vivre avec l'absence de Christ. À cette occasion, vous vous en souvenez aussi, j'ai parlé d'un moment de transition entre le temps de Jésus et le temps de l'Église, ce temps dans lequel la fête de la Pentecôte nous fait entrer aujourd'hui. Mais avant de réfléchir un petit peu avec vous à ce rôle fondateur de la Pentecôte, et bien sûr au sens que cette fête peut avoir pour nous aujourd'hui, je voudrais revenir sur l'histoire de la Pentecôte dans la tradition juive. En effet, si les disciples sont réunis ensemble ce jour-là, s'ils se trouvent à Jérusalem, tous ces Juifs, venus d'ailleurs et parlant d'autres langues, c'est qu'ils sont présents, en particulier, même s'ils y demeurent, ils sont présents pour cette fête juive qui porte en grec le nom Pentecosté, qui veut dire 50, une cinquantaine. Car depuis très longtemps, cette fête juive est célébrée 50 jours après la Pâque. À l'origine, en fait, c'est probablement une fête cananéenne qui a été récupérée, reprise par les Israélites. C'était la fête des récoltes. Les Israélites l'ont reprise en l'appelant d'abord fête de la moisson, puis fête des semaines, Shavuot. Et ce nom, Shavuot, cette fête est déjà mentionnée dans le Lévitique. Mais au cours des siècles, on ne sait pas très bien quand, le sens de cette fête a progressivement évolué pour devenir, dans les derniers siècles avant notre ère, la fête du renouvellement annuel de l'Alliance. Cette même Alliance dont nous avons parlé la semaine dernière, quand nos catéchumènes ont confirmé l'Alliance de leur baptême. Et donc, alors qu'elle était à l'origine la fête des semaines, Shavuot, cette fête est devenue en hébreu Shevuot, la fête des serments, la fête des promesses. Ces promesses que l'on doit faire à Dieu en échange de la promesse d'alliance et de paix qu'il fait à son peuple. Et d'ailleurs, peu avant Jésus, ou peut-être même à la même époque, on sait que la communauté de Qumran avait fait de Pentecôté sa fête principale. C'était le moment du serment annuel par lequel ses membres renouvelaient leur participation à l'Alliance de Dieu. Et au IIe siècle, après Jésus-Christ, un traité juif affirmera très clairement « La Pentecôte est le jour où la loi fut donnée ». Bon, voilà pour l'histoire de Pentecôté, fête juive. Cette fête pour laquelle, à l'occasion de laquelle, tous ces juifs pieux de tant de langues maternelles différentes sont présents à Jérusalem. Et puis, bien sûr, il y a une autre histoire qui se mêle à la première. C'est une histoire linguistique, une histoire de mots et de traductions. Roi, ce mot de la Bible hébraïque qui signifie à la fois le vent et le souffle de Dieu. En hébreu, roi est un nom féminin. Alors, dans la Septante, l'Ancien Testament traduit en grec dans les derniers siècles avant Jésus, ce mot hébreu féminin, roi, a été traduit par un mot grec, ni féminin ni masculin, un neutre, un nom de genre neutre, un nom qui respecte totalement son sens, un mot que vous connaissez tous, pneuma, le souffle, pneuma. Ça se termine par un A, mais c'est quand même un mot neutre. Et cette traduction permet de respecter le sens du mot, de conserver tout son souffle à la dynamique du divin quand elle se saisit de l'un ou de l'autre. Ou même ici, on va y revenir bien sûr, quand cette dynamique se saisit de plusieurs personnes en même temps. Mais Luc, lui, écrit directement en grec et il tient à préciser les choses. Le souffle qui s'empare des disciples n'est pas n'importe quel souffle, c'est un souffle saint, pneuma agion, toujours de genre neutre. Et ce mot grec, pneuma, a déjà un double sens, matériel et spirituel. Par exemple, dans l'évangile de Jean, en grec, quand Jésus parle d'adorer le Père en esprit et en vérité, le mot utilisé est aussi pneuma. Et c'est donc cette expression de Luc, pneuma agion, que 3 siècles plus tard, à la fin du 4e siècle, Jérôme, en traduisant la Bible en latin, du grec, la fera passer au masculin. Il la traduira en latin par les mots « spiritus sanctus », l'Esprit Saint. Alors attention, ce n'est pas une trahison. J'ai vérifié parce que je m'inquiétais, je ne voulais pas vous dire trop de bêtises. Ce n'est pas une trahison, Jérôme n'avait pas tort. Le premier sens de « spiritus » était bien celui de « souffle, vent ». Comme celui du mot grec « pneuma ». Mais on le sait, on le sent, le mot a très vite perdu ce premier sens, progressivement. Le glissement de sens est venu avec le temps, quand le Saint-Esprit peut-être s'est un peu essoufflé dans l'Église et que l'expression « spiritus sanctus » est devenue une formule rituelle utilisée pour personnaliser la troisième composante de la Trinité. Alors bien sûr, au moment de la Pentecôte, les apôtres ne peuvent pas se douter de cette future évolution linguistique. Et vous vous rappelez que les apôtres sont de nouveau 12, puisqu'à la fin du premier chapitre des Actes, Luc raconte qu'ils ont choisi, par un tirage au sort, ils l'ont choisi, Matthias, pour remplacer Judas. Et dans ce lieu fermé, ils sont sans doute réunis avec beaucoup d'autres personnes, peut-être des disciples d'avant la crucifixion, ou peut-être même déjà quelques nouveaux croyants. Et voilà qu'il se produit cet événement violent que Daniel Marguera, vous m'avez déjà entendu citer ce nom, surtout ces dernières semaines, que Daniel Marguera appelle un phénomène audiovisuel. Audio par la parole et visuel à cause des langues qui semblaient de feu. Cet événement, on peut le comprendre ou essayer de le comprendre de différentes manières. Et je suis sûre que tous, ici, nous nous sommes souvent demandé ce qui s'était vraiment passé à la Pentecôte et ce que ça voulait dire. Alors, en allant de la compréhension la plus négative à la plus réceptive, disons, de ce texte, on peut voir différentes choses dans cette scène. On peut y voir un groupe en transe, un phénomène d'hystérie collective, peut-être non violent, mais quand même assez inquiétant. Ou bien un phénomène plus positif, une expérience d'extase collective, une joie débordante qui s'exprime entre autres par des sons ou des paroles qui n'appartiennent à aucune langue connue. Ce phénomène qu'on appelle la glossolalie, parler en langue. Et ce phénomène sera assez fréquent dans les premiers temps de l'Église. Paul en parle souvent, et quelquefois avec une certaine retenue. Ou encore, on peut y voir des prières spontanées, pas forcément incontrôlées, des prières faites de répétitions, de cris, de supplications et de cris de joie. Et bien sûr, on peut y voir tout cela à la fois, sans doute. Et je voudrais ce matin vous proposer même une petite interprétation complémentaire. Si je vous ai parlé si longuement, peut-être un peu trop, excusez-moi, de Shavuot, la fête des moissons, devenue Shavuot, la fête des serments, des promesses, ce moment où les Israélites devaient renouveler leur serment d'alliance, c'est que justement, je vois un peu dans cette scène de la Pentecôte le véritable renouvellement de cette fête des serments, un renouvellement complètement inattendu, un renouvellement à l'opposé du renouvellement codifié par les rituels, un renouvellement que l'on peut voir et entendre, un renouvellement dans la spontanéité et la liberté. Spontanéité et liberté qui, on le sait, disparaîtront très vite, bien sûr, dans l'Église constituée. J'en ai parlé à la fête de la Réformation. Nous découvrons le renouvellement de l'Alliance, en fait. Nous le voyons manifesté par des personnes qui ne sont pas encore, même pas encore nommées, parce qu'ici, pour l'instant, ces personnes n'ont pas d'importance en tant qu'individus. Bien sûr, elles sont des individus, des personnes. Chacune reçoit sa langue de feu. Chacune vit cette irruption du souffle saint, de manière individuelle. Mais en même temps, ils le vivent déjà ensemble, de manière collective. Et c'est ce souffle qui les transforme déjà en une véritable communauté. Par cette effusion de joie vécue ensemble, par leur expression libre et spontanée, ils sont déjà les témoins de la nouvelle alliance. Ils vivent le véritable renouvellement de l'alliance. Ce que Thomas d'Aquin appellera la loi de l'esprit de vie. Je le cite, « À la fête de la Pentecôte, où fut donnée la loi ancienne, succède la fête de Pentecôte, où fut donnée la loi de l'esprit de vie. » Alors bien sûr, leurs paroles sont encore adressées au peuple juif. Il n'est pas question, même en des langues multiples, il n'est pas encore question de s'adresser aux non-juifs. Ça viendra au chapitre 10. Mais ce sont des paroles très différentes, non codifiées, des paroles spontanées. Ces croyants, regroupés autour des 12 apôtres, vivent une expérience spirituelle qui, d'une certaine manière, n'est pas complètement différente de celle du dernier Ésaïe, celle que nous avons entendue en première lecture. Mais ce qui est fondamental et ce qui les différencie d'Ésaïe, c'est qu'ils vivent cette expérience ensemble, dans un cadre communautaire. Et Luc a tout à fait conscience de raconter un événement fondateur. Il veut nous montrer que l'Église est née par la volonté de Dieu qui, à la Pentecôté, a renouvelé son alliance en remplissant les croyants de son souffle saint et qui leur a permis, en même temps, et c'est évidemment tout aussi fondamental, de se faire comprendre de tous. Parce que, bien sûr, si cet événement est véritablement fondateur, c'est aussi parce que la foule en est témoin. C'est elle qui est composée de juifs de toutes origines et de toutes langues. Et par sa diversité, elle représente donc tout Israël. Et peu de temps après, Pierre va s'adresser à elle comme au peuple d'Israël. Et même si les apôtres n'en sont pas encore là, comme je l'ai dit, cette foule annonce déjà le caractère universel de la nouvelle alliance. Et s'il y a un événement, un élément miraculeux dans cette histoire, il est là. Des Galiléens en extase, des lyres dans leur propre langue, donc probablement en araméen, et tous les autres ont l'impression de les comprendre et partagent leur extase. En incorporant à son texte la liste de nationalités que nous avons entendue, Luc a voulu insister sur le fait que non seulement le message du Christ est universel, Pierre le redira aux assistants quelques versets plus loin, mais que le don du souffle saint est tout aussi universel puisqu'il permet de transmettre une joie nouvelle, y compris par des mots prononcés dans une langue inconnue. L'Église se crée ici et maintenant, au moment où l'Esprit Saint, le souffle qui s'est saisi de chacun et de tous, leur permet non seulement de s'exprimer, mais de se comprendre. Le même souffle qui s'était posé sur Jésus au baptême est venu susciter la naissance de l'Église. Une Église, et voilà qui nous concerne directement, une Église qui donc est universelle dès son origine, avant même de commencer son activité, son développement. Et bien sûr, très vite, ces multiples trahisons humaines. On assiste simultanément à deux événements fondateurs. Le premier est celui d'une parole libre et spontanée, venue remplacer les serments traditionnels. Et le deuxième, c'est que la parole libérée de chacun est entendue, comprise par chacun, par tous. Et dans cet événement, Dieu est bien à l'origine de cette double libération. Par son souffle saint, il libère la parole et permet le renouvellement de l'alliance. Par son souffle saint, il permet à tous de s'ouvrir à ce que le texte appelle ses œuvres grandioses. Tous, nous les entendons dire dans notre langue, les œuvres grandioses de Dieu. Alors, pour terminer, comment réagir aujourd'hui? Comment participer à l'événement Pentecôte? Pour ma part, je refuse en fait un type de réflexion qui me semble ne conduire nulle part, une réflexion qui s'attacherait d'une manière ou d'une autre à la lettre de l'événement, soit pour y chercher des incohérences qu'on n'a aucun mal à trouver, en disant « ça n'a pas pu se passer comme ça, qu'est-ce qui s'est passé exactement, etc. » Soit au contraire, pour essayer de reproduire l'événement, en cherchant par un prétendu exemple la justification de ses propres pratiques. Mais si nous regardons et écoutons l'événement Pentecôte comme un moment communautaire, libérateur et fondateur, fondateur parce que libérateur et communautaire, eh bien, je pense que ça peut nous aider. Nous pouvons alors, à nouveau, prendre conscience que l'action dynamique du souffle saint, l'esprit de vie, cet esprit s'adresse à nous, dans nos propres mots et notre propre culture, comme il s'adressait à ce premier groupe de croyants. Il nous appelle à vivre et revivre cette libération ici et maintenant, à notre manière, dans nos propres mots et dans notre propre culture. Il nous appelle à mettre en œuvre encore et toujours cette refondation communautaire pour que, de nouvelle lune en nouvelle lune et de sabbat en sabbat, avec les apôtres et avec les prophètes avant eux, nous puissions, nous aussi, dire et redire les œuvres grandioses que Dieu accomplit en nous par son Saint-Esprit.